deux lettres qui sont rapportées dans la Bible. Il a certainement écrit d'autres courriers, d'autres lettres, mais ce sont les deux qui nous sont restés. Et dans l'une de ces deux lettres, il rend témoignage. Il explique pourquoi il est croyant. Et il explique surtout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est de cela dont j'avais envie de vous parler cet après-midi. Donc, première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, ça fait deux fois qu'il parle de la miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je le serve et que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul est reconnaissant à Dieu pour au moins une vérité. Et cette vérité, c'est qu'il a pris conscience que Dieu avait décidé de sauver les perdus. Et il s'est reconnu dans cette notion de perdition. Il s'est retrouvé, il a réalisé que si Jésus était venu sur la terre pour sauver les pécheurs, les perdus, c'était donc qu'il était venu pour lui. Et il y a quelque chose d'intéressant, bien sûr, dans cette confession, parce qu'il le croit, il en est persuadé, mais il l'a expérimenté aussi. Et je crois que la foi, ça n'est pas quelque chose que l'on va essayer d'accepter avec notre tête, c'est quelque chose que l'on va recevoir dans son cœur. Et manifestement, Paul a reçu la grâce de Dieu dans son cœur. Et dans ce passage, vous avez tout le message. Dans ce passage, il est question de la miséricorde, il est question de la grâce, il est question du message, de la prédication, et puis il est question de l'expérience que l'apôtre Paul a faite. J'étais le pire des pécheurs, il n'y avait pas de solution pour moi, je ne pouvais pas être sauvé, Jésus-Christ l'a fait. C'est ce qu'il dit, hein. J'étais misérable, j'avais pas d'avenir, j'avais pas d'espoir, j'avais pas d'espérance, Jésus-Christ l'a fait. Il m'a sorti de ma misère, il m'a sorti de mes tourments, il m'a sorti de mes peines. Alors, on va retracer qu'est-ce qui a amené l'apôtre Paul à cette expérience. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, qu'est-ce qu'il a réalisé pour arriver à confesser cela de cette manière-là. La première chose que je trouve, c'est dans une autre lettre qu'il a écrite et qu'il a envoyée à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, c'est Tite. Et il dit ceci, écoutez bien. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et noyissant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Si cet après-midi, nous pouvons croire au salut que Dieu nous donne, c'est simplement grâce à sa miséricorde, à cause, selon sa miséricorde. La miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exercer de la pitié, la miséricorde. La miséricorde, ça signifie avoir de la pitié à tel point que vous allez pardonner un coupable. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous a fait du tort, quelqu'un qui vous a fait du mal, Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous a offensé, et par miséricorde, vous allez être capable de lui pardonner. Vous allez être capable de pardonner, de tirer un trait, de passer un coup d'éponge et de dire « on a été ennemis et maintenant je ne t'en veux pas, tu es mon ami ». Ça, c'est de la miséricorde. Et ça, il faut le reconnaître, que c'est un sentiment assez incroyable. C'est être capable de pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas, à quelqu'un qui doit être condamné, mais on a décidé de lui pardonner. Paul dira « j'ai été sauvé par miséricorde ». Si aujourd'hui, Paul disait, si aujourd'hui je peux rendre ce témoignage, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Si je peux dire que je suis heureux, que je suis béni, c'est parce que Dieu, par miséricorde, m'a arraché à ma misère. Et j'insiste sur ce point parce que le constat que Paul fait de sa propre vie, mais il n'est pas formidable. Paul dit, parmi tous les pécheurs, parmi toutes les personnes misérables, je suis certainement sur le podium, je suis certainement tout en haut, je suis certainement un des pires. Et quand on regarde ce qu'on a fait de notre vie, même si quelquefois on a plus souffert que l'on a fait souffrir, il faut peut-être reconnaître que malgré tout, on n'a pas toujours été très bon, on n'a pas toujours été très juste, on n'a pas toujours été très honnête. Et nous aussi, on a fait du mal. Et Paul a conscience de ça. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal à d'autres. Et il dit dans ce passage, difficile de résister aux tentations, difficile de résister à la nature humaine qui est portée vers le mal. On ne peut pas faire autrement. C'est notre nature. On a été fait comme ça. La bataille, si on veut résister à la convoitise, elle est perdue d'avance. Si on veut résister, là encore, à tous les défauts qui habitent notre cœur, la bonne volonté ne va pas suffire. Il ne s'agit pas de dire « je vais changer pour que ça marche ». Si seulement il suffisait de le dire, ce serait bien. Hein ? Si seulement il suffisait de dire « d'un coup de baguette magique, je claque des doigts et ma vie est changée », ce serait formidable. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. Même si on fait des efforts, on n'y arrivera pas. Et Paul a reconnu que sa seule solution était d'être aidé. Il avait besoin d'aide. J'aimerais vous dire cet après-midi que votre seule solution, il n'y en a qu'une. La seule solution pour sortir de vos difficultés, c'est d'être aidé. Vous avez besoin d'être aidé. Et on n'a pas besoin simplement d'être aidé par nos voisins, mais on a besoin d'être aidé par Dieu. Il faut que ça vienne de plus haut, il faut que ça vienne de plus loin, il faut que ce soit plus fort, il faut que ce soit plus sûr, il faut que ce soit plus efficace, il faut que ça vienne de beaucoup plus loin. Et Paul a compris cela. Paul dit, Dieu m'a fait miséricorde. J'étais coupable, j'aurais dû aller en enfer, certainement. J'étais condamné à mourir, mais c'est Dieu qui m'a fait miséricorde. Est-ce que vous pouvez répondre à trois questions? Est-ce que vous pouvez me dire comment rattraper ces erreurs? Comment est-ce qu'il faut faire pour rattraper toutes les erreurs qu'on a faites? Pas évident. Deuxième question, comment est-ce qu'on peut arriver à changer tout seul, comme ça? Pas évident. Et troisième question, comment effacer la culpabilité de nos erreurs, la culpabilité de nos fautes? Quelquefois, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « tu es quelqu'un de méchant » parce qu'on le sait. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « tu es quelqu'un de pourri, il n'y a rien de bon en toi », on le sait. On sait ce qu'on a fait, on sait comment on s'est comporté. Et Paul a été un homme violent, il le dira. Ça a été un homme méchant. C'est quelqu'un qui a peut-être tué. C'est quelqu'un qui a été très proche de la mort, parce qu'il a approuvé la mort des autres. Comment effacer ça? Comment dire « je me blanchis, tout va bien pour moi » C'est impossible, c'est impossible. Vous avez besoin d'être aidé. Eh bien, Jésus-Christ est venu vous sauver par miséricorde. il est venu vous sauver. La deuxième chose très intéressante, c'est encore Paul qui le dit, c'est dans une autre de ses lettres, il dit, quand il écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vous êtes sauvés par miséricorde, la miséricorde de Dieu, Dieu qui pardonne alors que vous ne méritiez pas le pardon, et vous êtes sauvés aussi par grâce. C'est important de parler de cela parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Vous avez besoin d'être aidé et j'aimerais que vous soyez convaincus, persuadés que tout seul n'allez pas y arriver. Pour la seule raison que d'autres ont essayé avant vous. Et si ça avait marché, on le saurait. Si c'était efficace, on le saurait. S'il y avait une solution, on le saurait. Mais manifestement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quelquefois, on a fait des efforts pour être meilleur. Qui a déjà fait des efforts pour être meilleur? On en a tous fait. Parce que on n'est pas toujours heureux, satisfait. On essaye. Et puis quand ça rate, on n'est pas fier. Alors on recommence. Et si on recommence une deuxième fois et que ça ne marche pas, on n'est pas fier, alors on recommence. Mais quand ça ne marche pas, au bout de la quatrième, la cinquième, la dixième, la centième fois, dites, on n'en a pas marre, on arrête, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu ne fais pas un effort pour changer? Vous allez lui dire, ça fait 100 fois que j'essaye, j'y arrive pas, c'est impossible. C'est décourageant. Alors pour éviter que vous soyez découragé, Dieu a prévenu ça. Il l'a dit en avance et il vous dit, ça ne sert à rien de faire des efforts, tu ne vas pas y arriver. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Ce n'est pas par les œuvres qu'on peut aller au ciel, c'est par la grâce. Ça dérange beaucoup de gens, parce qu'il y a des personnes qui aiment, sont un peu fiers, proud, fiers. Ils ont envie de paraître plus grands qu'ils ne sont. Ils ont envie de prouver aux autres qu'ils ont des capacités. Alors ils font plein d'efforts, plein de choses. Le résultat, c'est qu'il n'y a que eux qui sont convaincus que ça marche. Mais tous ceux qui les connaissent, ils disent, il a mis un coup de peinture sur la façade, mais le mur, il est toujours aussi pourri derrière. Ça ne marche pas. Et même si tu peins le mur, peut-être qu'un jour, il va s'effondrer quand même. Il y a de nombreuses années, un ami qui était missionnaire en Russie m'expliquait qu'à l'occasion d'une nouvelle élection en Russie, ils avaient décidé de fêter je ne sais plus quelle bataille dans la ville de Saint-Pétersbourg. Donc il allait y avoir de grands défilés militaires, il allait y avoir le président, tous les ministres, et on allait passer par les grandes avenues de cette immense ville. Et donc on avait prévu que tout le monde allait passer par là. Et vous savez ce qu'on a fait? C'était imaginer les Champs-Élysées, les grands boulevards. Il y a plein de beaux immeubles. On a repeint tous les immeubles en blanc. C'est magnifique, hein? Et toutes les caméras du monde ont vu que la ville de Saint-Pétersbourg, elle était magnifique. Toutes les façades étaient peintes. Mais ils n'ont peint que les façades. Que le devant. Et si quelqu'un, et si une caméra était passée derrière, on aurait vu que les murs étaient pourris. C'est un trompe-l'œil. C'est pour faire semblant. Et quelquefois, on voudrait changer, mais on n'a peint que la façade. Derrière, ce n'est pas mieux. Alors, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que vous avez la chance et le privilège d'avoir un Dieu qui va vous aider encore pour ça. Vous savez, Jésus a expliqué à ces gens-là qu'il rencontrait qu'ils avaient besoin d'être délivrés parce qu'ils étaient esclaves. Et c'est assez surprenant, parce que parmi ceux qui vont discuter avec lui, certains vont lui dire « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Jamais je n'ai été esclave. Tiens, tiens, c'est bizarre. Parce qu'un de leurs prophètes avait dit ceci, au chapitre 26 du livre d'Ésaïe, il avait dit ceci, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Dans le livre de la Genèse, Dieu dira à Abraham, prévenant les siècles qui allaient arriver, parce que Dieu sait tout, Dieu savait que vous seriez là cet après-midi, qu'on parlerait de cela. Il le savait. Donc, dans le livre de la Genèse, Dieu avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas à eux, et ils y seront asservis. Ils seront esclaves. » Ils l'ont été esclaves, 400 ans en Égypte. Ils ont été esclaves à d'autres peuples, c'est Ésaïe qui le dit. Même dans le livre de Néhémie, un petit peu avant, il est dit la même chose, il est parlé à nouveau d'esclavage au chapitre 9. « Aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu nous as donnée. » Alors quand il disait à Jésus « Nous n'avons jamais été esclaves de personne », il mentait et il le savait. Vous pouvez mentir à plein de gens. Il y a une personne, deux, à qui vous ne pouvez pas mentir. La première, c'est Dieu. Et la deuxième, c'est vous. Vous pouvez mentir à plein de gens, mais vous ne pouvez pas vous mentir. Vous savez, si vous êtes esclave, vous le savez. On n'a pas besoin de vous le dire, vous le savez. Eh bien, parmi tous ceux qui sont là cet après-midi, à moins que vous n'ayez été sauvés par grâce, vous êtes tous esclaves. Esclaves du péché, esclaves de votre vieille nature, esclaves de tout ce qui vous rend malheureux, et plus que tout, de l'orgueil et de l'arrogance. Le livre des Proverbes dit « L'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. » Si vous continuez comme cela, vous n'obtiendrez pas beaucoup de belles choses. Et puis l'apôtre Paul a pris conscience également d'une troisième chose, c'est qu'il avait été sauvé grâce à un message assez incroyable. On dira même du message de l'Évangile, de ce dont je parle cet après-midi, on dira même que c'est une folie de prêcher ça. C'est une folie d'annoncer ce message-là. Quel est donc ce message ? Dieu, créateur du ciel et de la terre, vous a aimé. Et pour vous prouver qu'il vous a aimé, il a envoyé son Fils sur la terre, lui-même a guéri, a délivré, a béni les hommes, et pour terminer, il a accepté de mourir sur la croix, sur une croix. Il a accepté de terminer comme un vaincu et non pas comme un vainqueur. C'est complètement fou. Tous ceux qui ont voulu remporter des batailles sur la terre n'ont jamais voulu perdre, jamais. Ils ont fait des peuples des esclaves, ils ont opprimé les autres, ils ont toujours voulu gagner. Eh bien, pour gagner, Jésus a accepté, entre guillemets, de perdre. Pour gagner, il a fallu passer par la mort. Et ça, c'est incompréhensible. Pour la raison humaine, c'est incompréhensible. Il dira ceci aux Corinthiens, aux chrétiens de la ville de Corinthe. Il leur écrit et il leur dit au chapitre 1er et au verset 20, « Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde et sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Sauvé par la folie du message. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Retenez au moins cette dernière phrase. La folie de Dieu est plus sage que votre sagesse, et la sagesse de Dieu surpassera tout ce que vous pouvez penser. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Folie ou sagesse, si ça vient de Dieu, ce sera meilleur que tout ce que vous pouvez faire vous-même. Alors évidemment, quand Paul a compris ça, lui, c'était quelqu'un qui avait réfléchi, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup d'études, c'est quelqu'un qui avait appris beaucoup de choses. Quand il a réalisé ce qui venait de se passer à la croix quand Jésus meurt, il a pris tous ses diplômes, il a pris tous ses bagages, il a pris toute son intelligence et il a mis ça de côté. Et il a dit, pour aller au ciel, c'est pas ça dont j'ai besoin. Pour aller au ciel, il faut que je comprenne ce que Jésus a fait pour moi quand il meurt à la croix. Je prie que cet après-midi, vous compreniez ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris votre condamnation. Il a pris ta condamnation, ta culpabilité, tes offenses, tes erreurs. Il a pris tout cela. Jésus tout seul, le Fils de Dieu, n'avait pas à mourir sur la croix. Jamais. Il est juste, il est parfait, il est saint. Mais s'il est mort, c'est parce qu'il a pris notre méchanceté, nos fautes, nos erreurs. C'est pour ça qu'il est mort. Alors en donnant sa vie à la croix, il paye le prix pour nous et il paye le prix pour vous. Accepter ce que Jésus a fait, c'est insensé. Accepter que la mort puisse donner la vie, c'est pas normal, c'est pas logique. Accepter que le vainqueur désigné, le Fils de Dieu, soit présenté comme un vaincu, quelqu'un qui meurt sur la croix, c'est fou. Mais c'est la vérité quand même. C'est le seul moyen d'être sauvé, c'est le seul moyen d'aller au ciel. J'aimerais vous dire que ce qu'on échange cet après-midi ne parlera pas à votre intelligence avant de parler à votre cœur. Ça doit d'abord parler à votre cœur, et après ça montrera à votre intelligence. C'est avec le cœur que l'on accepte le message, et c'est avec l'intelligence qu'on comprend tout ça. Mais c'est avec le cœur qu'on l'accepte, c'est dans le cœur qu'il se passe quelque chose, c'est au-dedans du cœur que l'on peut découvrir l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Et je termine en vous citant un dernier passage. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dira ceci au chapitre 5 et au verset 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie, par sa vie. » Si vous vous confiez en Jésus-Christ cet après-midi, si vous lui faites confiance, si vous lui remettez votre vie, si vous vous approchez de lui simplement, si vous lui demandez de l'aide, si vous criez à Dieu, il exaucera votre prière en Jésus-Christ. Il exaucera votre prière à cause de Jésus-Christ. Se confier en Jésus-Christ, c'est être au bénéfice de ce qu'il a fait. Et croire que Jésus a tout accompli sur la croix, bien évidemment, c'est passer de la mort à la vie. J'aimerais vous dire que Jésus est mort à la croix. On l'a mis 3 jours dans un tombeau. On a mis une grosse pierre pour s'assurer que personne ne viendrait voler son corps. Malgré ça, au bout de 3 jours, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu quelque chose, la pierre a bougé. Et quand on a regardé à l'intérieur, le corps de Jésus n'y était pas, parce qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ce qui donne de l'efficacité à ce message, ce qui donne du poids à ce qu'on vient de partager ensemble, c'est que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Aujourd'hui, il est au ciel et il nous regarde. Il est présent par son esprit dans ce lieu et il voit exactement où on est placé. Ce qu'on pense, il connaît tout. Croire que Jésus meurt et ressuscite d'entre les morts, c'est croire qu'il me donne sa vie et que par sa vie, à ce moment-là, je peux dire qu'il y a quand même quelque chose qui appartient au passé et qu'à partir de maintenant, ma vie va être différente. Donner sa vie à Dieu, c'est assurer un avenir beaucoup plus heureux. Vous pouvez être sauvé cet après-midi pour l'éternité, parce que Jésus règne et Jésus vit pour l'éternité. Souvenez-vous de cela, cet après-midi, Jésus est venu sauver les perdus. Jésus est venu sur la terre sauver les pécheurs. Il est venu délivrer les perdus. Il est venu vous dire qu'il vous aimait. Il est venu vous dire que vous aviez besoin de lui. Il est venu vous dire qu'il ne vous avait jamais abandonné. Il est venu vous rappeler qu'il vous aimait et qu'il le fera encore cet après-midi par bonté, par miséricorde. On ne méritait pas. Personne ne mérite. On ne mérite que l'enfer. Mais pour aller au ciel, Dieu nous tend la main. Saisissez cette main, la main que Dieu vous tend. Prenez-la et vous verrez qu'il va tout changer dans votre vie. Il va vous accorder son secours et sa bénédiction parce que Dieu est fidèle. Et il bénit toujours sa parole. Il honore toujours sa parole et il vous honorera si vous voulez croire cet après-midi. Amen. Est-ce que vous voulez qu'ensemble, on s'approche de Dieu et que l'on prie maintenant? Est-ce que vous voulez fermer vos yeux avec moi? Baissez vos fronts si vous le souhaitez et on va prier et on va demander à Dieu sa bénédiction. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te louons parce que nous avons appris avec toi que la vie était différente. Nous avons appris avec toi que tu changeais nos vies, que tu nous délivrais, que tu nous donnais le bonheur, que tu nous donnais la joie, que tu transformais notre vie à tout jamais. Et Seigneur, nous sommes heureux d'avoir fait cette expérience. Nous sommes heureux d'avoir fait cette expérience avec toi. Nous sommes heureux de l'avoir vécu un jour. Et ça, c'est miraculeux. Et si tout cela est devenu réel pour nous, si nous pouvons dire que Dieu nous aime, si nous pouvons dire que nous avons trouvé la paix avec toi, si nous pouvons dire que notre vie est heureuse maintenant, c'est un effet de ta grâce. C'est parce que tu es le Dieu des miracles. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Tu transformes les vies, tu délivres. Eh bien, que ce message trouve un écho dans un cœur, que ce message parle encore à quelqu'un et que quelqu'un te donne son cœur et sa vie. Je t'en supplie, tu sais pourquoi quelqu'un résiste, tu sais pourquoi quelqu'un n'arrive pas à croire, tu sais tous les obstacles qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, mais je te prie de balayer ces obstacles, je te prie de mettre à terre toutes ces objections et de te révéler par ton esprit. Sauve celui qui est dans la peine, sauve celui qui pleure, sauve celui qui est dans les larmes, sauve celui qui est malade, sauve celui qui est seul, sauve celui qui est désespéré, sauve Dieu de grâce. Et manifeste-toi puissamment maintenant pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, sauve, je t'en prie, et glorifie-toi cet après-midi. Amen.